Oui, on va.
Il arrive et on va juste commencer là dans quelques secondes.
Oui.
Oui, ça commence. Donc on va se présenter pour commencer. Le réalisateur va arriver dans quelques instants. Du coup, je te laisse te présenter.
Bonjour à tous. Alors moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et je n'étudie pas le cinéma, j'étudie la psychologie. Je fais des recherches en psychologie, mais par contre, j'ai une connaissance du terrain de l'Afrique et de l'enseignement et de l'université africaine. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et toi?
Donc bonjour, moi je suis étudiante en master de cinéma à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et c'est la deuxième année que je participe avec la Bulac, fait son cinéma du réel.
Et si on a bien compris, le réalisateur est en chemin. Oui. Il y a eu un petit bug organisationnel ou un problème de transport, et où et il devrait arriver dans quelques minutes. Et on nous a demandé de... Enfin, on va commencer voilà. pour faire avancer le débat. Donc, je ne sais pas comment on va s'y prendre. Moi, ce que je pourrais faire peut-être, c'est commencer par donner mon ressenti de non spécialiste du cinéma, mais plutôt spécialiste du terrain qui a été présenté. Et ce que j'ai vécu en regardant ce film, c'est une immersion dans le réel. Et, quand j'ai regardé le film, je ne savais pas si c'était un film fictionnel ou documentaire. Je pense que c'est un petit peu à mi-chemin entre les deux. Mais ce qui est clair, c'est que ça ouvre une fenêtre sur le monde universitaire africain qui est extrêmement proche, je pense, de la réalité de plusieurs pays d'Afrique. En tout cas, en Afrique centrale, il y a beaucoup de problématiques qui sont abordées dans ce film qui vont être présentes pour les individus qui vivent la réalité de l'enseignement supérieur en Afrique.
Oui, j'avais remarqué aussi ça dans le film. Et, avant que le réalisateur arrive, je peux peut-être dire un mot sur ce que j'ai lu. Moi, j'ai lu un entretien où il disait justement que c'est totalement leur vie réelle. C'est-à-dire, évidemment, il a réécrit des scènes, mais il est lui-même étudiant à l'université qui est montrée. Enfin, il l'a été. Et c'est sa bande de copains avec qui il a passé sa licence. Donc, j'imagine qu'il a mis beaucoup de réalité dans les difficultés, les conditions de vie, et notamment les problèmes de corruption et les problèmes de perte de copies un peu hasardeuses.
Le problème du lien avec les professeurs en Afrique est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a l'envie d'apprendre qui est très forte. On retrouve chez les étudiants le désir d'acquérir des connaissances qui est peut-être plus fort qu'avec nos étudiants ici en France, mais qui ils font face à d'énormes difficultés, blocages. Et il y a une forme de résilience qu'on voit dans le film où les conditions de vie sont très médiocres des étudiants, mais ils affrontent ces conditions pour espérer, on va dire, un monde meilleur et changer les choses. Et moi, ce que je voudrais demander au réalisateur, quand il va arriver, c'est quelle est sa lecture sur l'avenir ? Parce que, est-ce que ces choses-là peuvent changer ? Ou est-ce qu'il y a une espèce de... Est-ce que c'est bloqué à un stade où ça n'évoluera jamais ? C'est-à-dire que quand les nouveaux professeurs vont arriver, ne vont-ils pas rentrer dans ce système où il y a tellement peu de ressources que les profs sont amenés à devenir corrompus à cause du manque de ressources dans les pays d'Afrique centrale notamment, mais de la majorité des pays africains.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le film, justement, à un moment, l'un des garçons dit c'est à nous de casser la chaîne, en fait, de casser la chaîne de la corruption, de faire en sorte d'être la toute première génération à ne pas reproduire les mêmes schémas et à se sortir de ça. Est-ce qu'on va y arriver ? Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, ils incarnent l'espoir encore existant.
Mais ce film, il incarne l'espoir et en même temps, il y a une forme de désespoir, je trouve. C'est à mi-chemin entre les deux. Parce que d'un côté, on a l'espoir des personnages qui est très fort et qui ressemble à ce que je vois quand je vais enseigner en Afrique. Mais d'un autre côté, la structure est tellement figée avec tellement peu de ressources qu'on peut aussi se dire, mais est-ce que c'est même possible de changer les choses ? Quand eux vont devenir profs, est-ce qu'ils auront les moyens de faire les choses différemment ? Moi, j'espère que oui, évidemment. Mais j'aimerais avoir son point de vue là-dessus.
Est-ce qu'ils auront les moyens de devenir prof ?
Parce que certains d'entre eux, un tout petit nombre.
J'ai lu justement par rapport au film, le réalisateur disait dans un entretien que ça, c'est une fac publique et que la plupart des élèves qui sont là ne vont pas forcément pouvoir accéder à des postes dans l'enseignement, par exemple, ou dans l'administration, puisque le but de ces élèves, c'est de travailler dans la fonction publique. Et en fait, pour ça, il faut avoir, je le cite, il dit qu'il faut avoir des parents, des réseaux, des connaissances ou corrompre. Soit, en gros, tu as un réseau et des parents influents, soit tu as de l'argent pour corrompre les gens déjà en place. Donc, ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre n'auront pas forcément la possibilité d'accéder à des postes à l'heure actuelle.
Je pense que c'est vrai en partie. Et je pense quand même qu'il faut aussi donner une note
positive,
dans le sens où ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même il y a un certain nombre de gens en Afrique aujourd'hui qui sont jeunes et qui ont envie que les choses changent et qui ont de l'intégrité. Enfin, moi, fondamentalement, je pense que l'intégrité existe chez certaines personnes qui étudient dans ces universités qui sont dépourvues de tout et qui a un petit peu des possibilités pour que ça change. Mais bon.
Et sinon, pour un autre sujet par rapport au film, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, et ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est la frontière très floue entre aspect documentaire et aspect fiction. C'est-à-dire qu'effectivement, face à ce film, on ne sait plus vraiment ce qui est vrai, ce qui est reconstitué, ce qui est rejoué, ce qui est écrit, ce qui n'est pas. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure, quand on se parlait, la séquence du commissariat, qui est évidemment une séquence reconstituée, puisque c'est impossible d'avoir filmé la confrontation et toutes ces scènes dans le commissariat. Et je trouvais ça intéressant de voir à quel point le film est écrit, et aussi même esthétiquement, à quel point ça se voit dans les passages d'un plan à un autre. On voit que tout est travaillé, un peu comme dans un film de fiction. Donc bon, j'aurais bien aimé poser cette question après au réalisateur.
Mais... Il va avoir plein de questions à répondre. Mais en fait, ça, c'est parce que toi, tu as un regard du cinéma que moi, je n'ai pas, et je n'ai pas vu toutes ces choses-là. Mmh. À l'inverse, j'avais l'impression que c'était filmé caméra sur l'épaule, comme si on filmait la réalité, mais sans aucune planification en amont. Donc pour moi, ça, c'est une vraie réussite du film. C'est que ça donne l'impression que tout se passe comme si c'était... filmé en téléréalité, en fait. J'ai cru que c'était un film de téléréalité.
On voit pas les fils. Enfin, les fils.
Non, juste un moment, on voit un micro, un petit bout de micro dans une des scènes. Ouais. Et ça, c'est ce qui est bluffant, parce que ça nous immerge dans la réalité de la réalité africaine. Et ça aborde ce film, je trouve, un ensemble de thématiques en un seul film, notamment la thématique de la place de la femme, qui est abordée pas mal. En sous-texte, oui. Dans le film. Je ne sais pas si c'était fait exprès, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la manière dont les femmes, les personnages féminins apparaissent dans le film, c'est souvent un peu légèrement en retrait. Ils sont plus figés, un peu. J'ai eu cette impression. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait une volonté de montrer la place vulnérable de la femme dans la société africaine, et notamment à l'université, où elle est un peu traitée comme un objet par les professeurs, et elle est source de corruption et de...
Oui, effectivement, c'est très subtil et c'est très implicite, c'est évoqué par touches. Il y a des petites phrases comme ça qu'on peut capter quand une des filles dit « pour nous c'est compliqué parce que les professeurs nous font des avances et si on refuse, dans les deux cas c'est compliqué, qu'on refuse ou qu'on accepte, on se met dans une position très complexe ». Et à la fois, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous montre aussi que pour les garçons aussi, le fait que les femmes aient cette place-là, c'est-à-dire soient en difficulté, ça les met en difficulté, je parle bien sûr des étudiants, puisque eux-mêmes n'ont pas le droit de toucher, je cite ce qu'ils disent, n'ont pas le droit de toucher aux filles de l'université, puisqu'elles appartiennent aux professeurs. Donc ils doivent aller au lycée, encore une fois je reprends les termes, mais pour trouver des petites copines, parce qu'il y a une espèce de chasse gardée. Donc c'est assez intéressant, je trouve, de voir qu'ils ont tous les deux, que ce soit les filles et les garçons, un intérêt à déconstruire ce schéma, en fait.
Oui, c'est certain, parce que les garçons en souffrent. Mais les filles sont vraiment utilisées comme une ressource. Dans le film, c'est présenté comme si les filles à l'université sont une ressource dans lesquelles les professeurs peuvent puiser. Et ça, c'est un problème de pas mal de pays africains, je pense, et qui est sorti dans les médias récemment, qui a été mentionné dans les médias récemment. Et ce film aborde cette question-là, notamment, je pense.
Oui, et même au niveau de la place de la femme, il y a plein d'autres moments où, même en dehors de l'université, je veux dire, on voit quand même les rapports hommes-femmes sont assez complexes, notamment lorsqu'on voit que la tante a menti pour finalement obtenir gain de cause auprès de la police. C'est là qu'on voit que ça a l'air vraiment d'être... des deux côtés, c'est assez compliqué à gérer, quoi. Les rapports ne sont pas très clairs.
C'est difficile, probablement pour les garçons et les filles de naviguer dans cet environnement.
Il y a aussi tout le poids de la tradition qui est révélé avec, avec la scène un peu drôle, entre guillemets, des animaux qu'on transporte sur la moto, qui sont en fait une offrande à la famille pour... En plus, je crois que sur la feuille, il y a écrit pour viol, ce qui est à nouveau très problématique, étant donné qu'il a été dit que ce n'était pas un viol. Et donc, la famille de la jeune fille continue de réclamer cette offrande, en fait, que ce soit pour viol ou pour le fait simplement de s'être mariée avec cette jeune femme. Mais c'est quelque chose de... On voit que c'est quelque chose qui remonte à loin. C'est des traditions anciennes qui sont perpétuées et qui, encore une fois, perpétuent un schéma... assez déséquilibré, puisque l'homme est censé amener les ressources financières, et donc la femme n'est pas censée travailler. Enfin, ça... En sous-texte, il y a plein de choses qui passent aussi à travers une scène humoristique, je trouve.
Je commence à sécher sur ce qu'on peut raconter de plus sur le film.
Moi, j'avais noté d'autres thèmes. C'est vrai que je préférais les aborder quand le réalisateur sera présent, mais... Mais c'est vrai que, notamment, je me posais la question du rapport entre le réalisateur et les filmés. Donc, je parle des trois garçons. De quelle manière il avait réussi à leur faire accepter la présence de la caméra et la reconstitution de certaines scènes de leur propre vie. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport très intime, déjà, entre lui et ses personnages pour réussir à leur faire reconstituer, par exemple, les scènes avec leurs petites amies. Je trouvais ça assez fort d'avoir pu les filmer d'aussi près.
Oui.
Oui, oui, vous pouvez venir. On vous attend.
On vous attendait, on remplissait le vide pendant ce temps.
Du coup, on se représente peut-être.
Oui.
Brièvement. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez
un micro là.
Je disais excusez-moi pour le retard.
Enchanté de vous rencontrer. Moi je suis enseignant à l'université, donc professeur d'université à Paris. Et je travaille régulièrement en Afrique, mais pas en Centrafrique, mais en RDC et au Rwanda. Donc j'ai une connaissance un petit peu du vécu des étudiants africains.
Bonsoir, moi je m'appelle Claire, je suis étudiante en Master 2 cinéma. Donc je vais plus vous poser des questions sur le côté fiction, le côté analyse filmique de votre film.
D'accord.
Voilà. Je suis moins calée sur l'Afrique.
Vas-y, je te laisse commencer.
Pour commencer, je voulais vous remercier pour ce film qui est très beau et à la fois très solaire, malgré le fait qu'il évoque des réalités extrêmement dures, mais d'une manière, je trouve, parfois drôle, parfois un peu absurde, ça retourne les situations et c'est agréable... de ne pas faire de misérabilisme et de regarder ça de l'intérieur. Je trouve ça très beau. Et dans un premier temps, oui, je voulais vous demander comment vous était venue l'idée de filmer le quotidien des étudiants et à quel moment, quel a été peut-être l'élément déclencheur qui vous a fait prendre votre caméra pour vous lancer.
Merci. Déjà, à la base, moi, je suis chanteur-rappeur. Je ne faisais pas du cinéma, je ne faisais pas de films. Je savais que chanter. Et après mon bac, chaque jour je regarde des films et un beau jour je partais à l'université et j'ai vu l'affiche des Ateliers Varan. Parce que chez nous, il n'y a pas de cinéma et les Ateliers Varan, c'est un atelier instauré ici à Paris et ils partent partout dans le monde pour essayer de former des jeunes et en leur donnant beaucoup plus de pratiques à réaliser dans un court délai, un court métrage. J'ai vu leur affiche et j'étais intéressé à participer. Et je suis parti, j'ai présenté mon projet. Il y a eu 200 candidatures en 2017 et on a retenu 10 dont je faisais partie et j'étais le plus jeune à l'époque. Je ne connaissais rien dans le cinéma. La première journée, dès que je suis arrivé, on m'a donné une caméra. On m'a juste montré là où il fallait appuyer sur le rec. On m'a dit « va sur le terrain, filme ». Étant derrière la caméra, déjà, moi, je vois toujours ceux qui font mes clips, ils bougent. Et je suis parti, je commence à filmer en faisant des mouvements. Et j'ai ramené les images. Mes formateurs se sont moqués de moi, ils m'ont dit « tu filmes comme un cochon ». C'était le premier jour, j'étais choqué, mais bon, ça m'a permis de m'améliorer. Et c'est à partant de ces erreurs-là qu'ils m'ont dit « il faut faire des cadres fixes, c'est ici le mise au point, c'est ici qu'il faut régler ton diaph, l'exposition, etc. » Un peu la pratique. La deuxième journée, c'était faire un exercice d'artisan. Tu retrouves un artisan, tu dois, s'il doit fabriquer, c'est un ébéniste, tu dois prendre le début de l'histoire jusqu'à la fin, comment il va sortir son œuvre. Et la troisième journée, le tout en 7 semaines, la troisième journée, c'était maintenant aborder mon sujet. En 7 semaines, j'ai appris à régler la caméra, la technique. J'ai fait du repérage, trouver le personnage et réaliser d'abord mon premier film, faire le montage. Le tout en 7 semaines, j'ai fait mon premier film intitulé Mbinamo, toi et moi, un court métrage de 28 minutes. Après cet atelier, il fallait maintenant continuer. J'ai commencé à aimer le cinéma. J'étais vraiment plein dans le cinéma. Je voulais continuer à faire des films. Et au même moment, j'étais étudiant en première année des sciences économiques et de gestion à l'université de Bangui. Et il fallait proposer un sujet. Tous les autres ont proposé des sujets par-ci, par-là. Et moi, je me suis dit, ben, je suis à l'université. Quand j'étais encore au lycée, je rêvais faire des études à l'université pour aller travailler dans la fonction publique. Et je voyais le bâtiment qui était très beau. Je me disais que c'était un paradis terrestre. Mais au moment où je suis arrivé à l'université, j'ai vu que c'était tout à fait le contraire. Les professeurs étaient presque absents, les étudiants, la corruption, le harcèlement, tous ces sujets que vous avez vus dans le film. Je me suis dit, pourquoi pas dénoncer. C'était d'abord la première idée, dénoncer tout ce bordel qu'il y a au sein de l'université. Et j'ai proposé le sujet à mes formateurs. Et après, ils m'ont dit, bah, pourquoi pas, il faut commencer. Mets-toi au travail. Et un peu plus tard, j'ai commencé à filmer et je me suis rendu compte que si je ne fais que dénoncer, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être très, très intéressant et je vais me retrouver sûrement en exil parce que déjà, c'est interdit de filmer à l'université de Bangui. Le recteur dépasse un ministre chez nous. Il m'a fallu 4 mois pour avoir l'autorisation et il fallait passer par l'ambassade, l'Alliance française, où on a fait semblant d'inviter le recteur 3 fois de suite à un dîner, juste pour lui dire, mais on a un étudiant là-bas qui a déposé une demande pour toi, est-ce que tu peux l'aider à obtenir l'autorisation de filmer? Et après avoir obtenu l'autorisation de filmer, je suis arrivé, j'ai commencé maintenant. Et puisque j'étais à l'université, je faisais l'économie. C'était cool pour moi, très intéressant pour moi de raconter notre quotidien, notre histoire en tant qu'étudiant et à toucher de doigt vraiment la réalité de tout ce qui se passe. Très vite en classe, pendant les examens, j'essayais de composer très vite et j'ai laissé le stylo, je prenais ma caméra pour filmer mes amis pendant la classe. C'est comme ça que je suis arrivé sur ce projet.
Et les amis en question qui ont été filmés, les 3 personnages principaux, mais surtout Aaron et Nestor, qui sont vraiment les 2 personnages qu'on voit tout le temps. Est-ce qu'ils ont facilement accepté de devenir ces 2 personnages? Comment ça s'est passé naturellement? Est-ce qu'il a fallu leur...
Déjà, à l'université, en première année, on travaille dans un même groupe. C'était notre groupe d'exercice. Quand on a un exercice de microéconomie, de HPE, si on veut le traiter, on se met ensemble, on travaille. C'était déjà mes amis, on se connaissait déjà bien avant, on était très habitués. Et le fait que je faisais la musique, c'était aussi mes fans.
D'accord.
Ils aimaient ce que je faisais et ils avaient très, très envie un jour de figurer dans mes clips. Mais je n'ai pas pu le mettre. Et quand j'ai eu cette idée et que j'ai trouvé Nestor qui était très intéressant pour moi, d'abord dans un premier temps, je ne calculais pas les 2 autres. C'était vraiment Nestor, je m'étais focalisé sur Nestor.
Pourquoi Nestor?
Parce que j'aimais sa tête. Non, il était très spécial, il était intelligent avec ses yeux, ses grosses lèvres, très intelligent et à un moment donné, à la fois aussi mélancolique. Il était très bizarre aussi pour moi parce qu'il pouvait toutefois changer d'humeur devant nous tous. Et c'était le seul dans notre groupe qui était plus sérieux. Les autres, nous autres, on n'était pas très sérieux, on était très distraits, on s'amusait tout le temps. Donc c'était le seul qui, de fois, nous canalisait pour dire, on doit travailler là. Il m'intéressait et à travers lui, je voulais raconter l'histoire du film. Mais après, il fallait, je me suis dit, à lui seul, l'histoire ne va pas être très riche. Il faudrait que je prenne le groupe. Et quand je leur ai proposé que je voulais les filmer, parce que quand je filmais déjà Nestor, ils étaient là. Ils étaient là, ils m'accompagnaient. Il arrivait que je tournais la caméra. Mais il y a des séquences, des fois, ils regardaient trop la caméra. Je leur disais que je n'avais pas envie qu'ils puissent trop regarder la caméra. Faites votre vie, oubliez que je suis là. Mais n'oubliez pas, mais je ne veux pas que vous puissiez vraiment trop vous figez ou vous fixez trop la caméra comme si il y a un étranger qui est parmi vous, quoi. Faites comme si la caméra fait partie de vous, c'est toujours moi qui vous regarde derrière juste cet appareil. Et ils ont pu comprendre, ils se sont laissés emporter. Mais au fur et à mesure que, surtout quand Nestor a constaté que ça devenait de plus en plus lent, c'était difficile. Les autres collègues ont tourné leurs films, c'était fini. Je commençais à voyager, je commençais à avoir un peu de succès. Chez nous, en Afrique, quand tu as un peu de succès, il y a un peu la jalousie qui arrive. Et ils étaient choqués, ils ne voulaient plus continuer le film. Et ils me demandaient est-ce que réellement je suis ami ou bien est-ce que je veux juste le considérer comme le personnage, comme vous avez vu. C'était vraiment casser la relation.
Cette scène, elle est donc très réelle.
Très réelle. Mais quand je voulais le filmer, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas parce qu'ils me le disaient tout le temps. Et je me suis dit, mais ce que tu me dis, c'est très intéressant. Mais pourquoi je dois pas, je veux bien te filmer, me dire ça directement devant la caméra. Il avait toujours honte, il me dit non, je ne peux pas parce que tu vas garder ce discours. J'ai dit non, n'aie pas peur, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligé de le mettre dans le film. Et un beau matin, quand je suis arrivé, on bavardait. Et là, il a commencé, j'ai braqué ma caméra et je commençais à récupérer directement l'image, quoi.
Je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la caméra, le fait qu'au départ, il voyait ça comme un corps étranger, il la regardait beaucoup trop, etc. Je me demandais comment vous étiez situé dans le film, c'est-à-dire comment vous avez envisagé votre place, parce qu'on voit que vous apparaissez très peu à l'écran. Et est-ce que c'était une volonté de votre part pour immerger le spectateur dans ce groupe et pour ne pas vous placer comme une sorte d'intermédiaire entre le spectateur et ces jeunes garçons ? Est-ce que vous aviez réfléchi à votre présence à l'écran ?
À la fois, en racontant l'histoire de mes amis, je ne voulais pas être très très loin. C'est pourquoi j'ai rajouté aussi une voix off chantée qui me caractérise et qui m'associe beaucoup plus aussi à ce groupe-là. Et à un moment, j'interviens, je parle pour montrer un peu ma présence, même avec la caméra. Même quand je suis avec eux, j'essayais vraiment de me familiariser. C'était vraiment un choix personnel. C'était une manière pour moi de me rapprocher et de montrer vraiment que ce groupe-là, je fais partie de ce groupe, au fait. C'était un choix vraiment, ce que je voulais.
Et pour la chanson, puisque vous en parlez, je me demandais quel a été votre travail par rapport à la musique dans le film. Est-ce que c'est vous qui avez écrit, par exemple, certaines chansons qu'on entend, ou comment vous avez travaillé là-dessus ?
Ce sont tous mes titres. C'est moi qui les ai composés. Il y a deux titres dans le film, la première chanson et la deuxième, un peu plus au milieu, la chanson Bangui. Ce sont deux chansons que j'avais composées déjà bien avant même la réalisation du film. C'était déjà sorti à Bangui. Et les autres musiques que vous entendez dans le film, je les ai composées pendant le tournage et une partie pendant le montage. Pendant le tournage, quand on était en pause, en train de bavarder, j'avais de l'inspiration et j'avais envie de faire une voix off, mais pas une voix off qui devait être là juste pour décrire le film. Je voudrais accompagner, porter l'émotion de mes personnages du film à travers ma musique aussi, parce que c'est ce que je sais faire. Et voilà.
Moi, j'ai une question un peu plus sur le contenu du film. Je trouve que ce film, il aborde énormément de problématiques africaines actuelles. La question du manque de ressources, évidemment, la question de la place de la femme, la question du désir d'émancipation, la corruption, le problème dans les universités avec les professeurs qui ne sont pas là et ce système qui est défaillant. Est-ce que tout ça, c'est venu un peu implicitement ? Vous aviez envie de montrer juste, vous avez pris le réel et vous l'avez montré tel quel, ou est-ce que vous avez réfléchi en amont de problématiques sur lesquelles vous vouliez vraiment insister parce que ça parle de toutes ces choses, en fait.
Ces choses déjà existent au quotidien. C'est le discours que tous les étudiants ont à l'université de Bangui. Tout le monde en parle tout le temps, mais personne ne veut en parler un peu. Bon, on en parle dans les coulisses, mais on ne veut pas le dire haut pour ne pas être surpris et être puni. Et moi, quand je veux tourner, je vais filmer, j'ai toujours je prévois mes séquences à l'avance, même quand je suis même dans cette situation de documentaire, j'écris juste les grandes lignes et je viens, je vois mes amis, je leur parle, je dis le lendemain je veux qu'on fasse telle chose, Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous, après les cours, j'aimerais bien avoir une séquence avec vous en train de faire des exercices. Est-ce que vous pouvez avoir un temps pour faire les exercices? S'ils sont motivés, après je leur laisse la liberté de faire sortir les choses comme ils veulent, mais je prévois un peu les séquences, puisque je connaissais déjà les choses qui se passaient à l'université. Donc j'essaie de prévoir et les pousser juste à les raconter à leur manière.
Je peux vous poser aussi une question un peu plus presque métaphysique, mais quand au tout début du film, il parle de comment la nouvelle génération va se comporter par rapport à l'ancienne génération, donc les jeunes qui vont faire les choses différemment. Est-ce que ça va être possible s'ils deviennent professeurs, Aaron et Nestor ou Benjamin, s'ils sont professeurs d'université demain, est-ce qu'ils vont être différents?
Est-ce qu'ils vont être différents? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est notre discours à nous jeunes, c'est notre combat parce que nous jeunes aujourd'hui, nous voulons changer. Il y a un combat qui se passe aujourd'hui dans notre université et voire même à Bangui d'une manière générale. Tous les jeunes sont en train de vouloir renverser l'ancienne génération, que ce soit dans le milieu sportif, la fonction publique. Les anciens, les vieux, comme nous, on aime le dire chez nous, c'est les vieux, on les appelle les vieux directement. Quand ils sont dans la fonction publique, la personne peut, le vieux est à l'âge de la retraite, il va plutôt décider de réduire son âge pour rester toujours à la fonction, continuer à travailler. Et il y a un grand nombre de jeunes qui sont des chômeurs après les diplômes qui ne font rien, qui n'ont pas du travail, parce que ça devient encore il y a un autre problème encore derrière. Et donc, nous, on veut changer les choses. Et si je dois vraiment être du côté de Nestor, je pense que lui va être vraiment là-dedans. Et il va aller au fond, il va vraiment chercher à faire le contraire des professeurs d'aujourd'hui. Aaron, je pense pas qu'il va continuer dans l'enseignement parce que lui, déjà, il est devenu très responsable avec ses jumelles. C'est très difficile déjà. Au départ, il voulait devenir professeur, mais aujourd'hui, si la réalité n'est plus facile. La responsabilité de la famille, c'est très compliqué pour lui. Benjamin aussi, s'il a la possibilité de continuer les études, parce que là, il peut plus continuer à faire, il peut pas continuer à faire le master parce qu'il n'a pas la possibilité de continuer les études, c'est très compliqué. Donc, la seule personne à qui je peux compter ou je peux me dire qui peut répondre à ce souci ou à avoir vraiment changé les choses, c'est Nestor.
Il a eu sa licence?
Il a pu obtenir sa licence l'année dernière.
Super, félicitations Nestor.
Ah, merci. Ah, on a attendu, j'ai pas voulu sortir le film avant parce que j'avais peur si je sors le film, il va sûrement être encore puni, il ne pourra pas obtenir la licence. Donc dès qu'on a fini le montage, on a fini tout, on attendait.
Combien d'années il a mis pour l'obtenir?
2 ans.
2 ans. En plus?
Oui, 2 ans. Non, 1 an plutôt. 1 an. 1 an après, c'est 1 an après qu'il a pu obtenir sa licence. C'est 1 an.
Moi, j'avais une question sur plus l'esthétique. On observe qu'il y a un réel désir de mise en scène, j'ai trouvé, notamment avec certains raccords. Par exemple, quand on voit le scooter partir au loin et qu'au plan suivant, on retrouve ce scooter arrivant face caméra, il y a vraiment quelque chose qui relève de la fiction, pour moi, en tout cas de la mise en scène. Je trouvais ça très intéressant. Et je voulais savoir si vous aviez cette volonté d'utiliser le réel pour créer une sorte de fiction.
Oui, ça fait partie de moi. Même déjà dans mon tout premier film d'école, mon court-métrage, pendant la formation, je mettais toujours mes personnages en scène. Même dans les documentaires, j'ai envie un peu de canaliser les choses. Et ça ne m'empêche pas de laisser les acteurs raconter. Aujourd'hui, je suis en train de mon prochain projet de film. Ce sera de la fiction, ce sera un autre long métrage fiction. Mais toujours, ça ne sera pas fiction, ça sera fiction un peu, je ne sais pas si je dois dire le terme fiction réelle, en écrivant le dialogue, mais en donnant aux acteurs la liberté vraiment de faire ce qu'ils veulent, mais en prévoyant les choses. C'est comme vous parlez de cette scène, de cette séquence, même on voit le petit faux raccord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je l'ai assumé, je l'ai accepté parce que je l'ai laissé exprès. Même quand on l'avait vu, on se disait pourquoi pas aller refaire la scène. Je dis, non, je préfère le laisser comme ça. pour aussi titiller les débats. Et c'est important de l'assumer et d'accepter en tant que réalisateur et montrer aussi un peu ma couche de fiction que je rajoute dans le film à peu près. Parce qu'il y a même des scènes, la scène du commissariat, c'est vraiment une scène de fiction. Parce que c'était une réalité passée, je ne pouvais pas l'attraper au temps réel. Je suis reparti, j'ai payé les militaires, j'ai rejoué dans le même commissariat là où Aaron a été arrêté. Donc c'est des choses, même la scène du marché.
C'était la réalité, mais refaite, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, à ce sujet, je me demandais comment vous aviez fait accepter à vos personnages non seulement la présence de la caméra, mais aussi de se confier autant sur leur vie intime et de reconstituer des passages de leur vie intime, puisque j'avais un peu deviné que la scène du commissariat avait été reconstituée, puisque ça ne me paraissait pas possible. Et c'est une scène très très intime pour Aaron. Comment, par exemple, vous avez réussi à leur faire accepter de rejouer ces scènes-là ? Et également, quand vous les filmez avec leurs petites amies dans des moments d'intimité aussi proches, enfin, la caméra est aussi proche d'eux. Comment vous avez fait pour les convaincre ?
Toujours avant que je ne commence à filmer, moi, je prends beaucoup de temps à échanger d'abord avec mes personnages. Même dans le premier film, je ne sors jamais ma caméra à la première rencontre. Je laisse beaucoup de temps échanger. Je pense que j'ai même pris un mois avant de commencer le tournage. Je connaissais même mes amis. Même si on me demande à 20h où se trouve Aaron, je saurais dans quelle buvette il peut se trouver. Je peux savoir dans quelle salle se trouve Nestor qui est en train de faire des exercices. Je connaissais à peu près tous les programmes. Je connaissais leurs déplacements. On se connaissait. Donc du coup, le fait déjà d'être vraiment en très très bonne relation, comme ça vraiment le programme de mes amis, ça me mettait, ils avaient très confiance en moi et c'était très facile pour moi de sortir la caméra quand je voulais et d'attraper ce que je voulais. Je suis même allé voir leurs copines que vous voyez dans les films. Donc les copines me connaissaient déjà, ils étaient déjà habitués avec moi. La seule chose que j'essayais de leur faire comprendre, que c'est pas la caméra qui est là, c'est juste moi qui m'associe à leur échange, à leur discussion. Quand ils sont en couple, je suis là, je regarde, comme si d'habitude, quand on se retrouve dans nos coins, on est en train de bavarder et qu'ils sont en train de se parler, ben, chacun se parle, c'est tout. Et ça me donne cette facilité, même dans mon premier film, c'est toujours ce que j'ai essayé.
D'ailleurs, votre premier film, est-ce qu'il est disponible quelque part ?
Oui, le premier film est sur Vimeo et sur la plateforme des ateliers Varan. Et même sur YouTube, quelqu'un l'avait mis. Bah, comme c'était un premier film d'école, on n'avait pas voulu compliquer, se casser la tête là-dessus. Donc ça se retrouve même sur YouTube. C'est gratuit.
Le titre, c'est Toi et moi, c'est ça ?
Toi et moi.
Okay. Finalement, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez, au cours de votre travail, au début quand vous tourniez les rushs et ensuite toute la suite, vous avez un peu dépolitisé le projet de départ, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous étiez parti avec une idée beaucoup plus politique, avec cette volonté dénonciatrice, et au fur et à mesure vous êtes peut-être aperçu que vous pouviez atteindre le politique par l'intime et à travers des personnages que vous connaissez très bien et sans forcément montrer les images où vous brûlez des choses, où vous prenez le recteur en otage, etc. Je ne sais pas si c'est un travail dont vous avez eu conscience. C'est des décisions que vous avez prises consciemment ou si ça s'est fait tout seul au fur et à mesure ?
C'était vraiment un choix de réalisation. C'était un choix de réalisation et moi j'ai trouvé que c'était plus intéressant. C'était très intéressant de raconter une autre histoire, de raconter l'histoire de ce groupe, cette amitié, que de raconter, de parler que de politique, quoi. Ça allait pas me rapporter, ça allait pas être très intéressant. Moi, j'ai envie de continuer à faire des films, j'ai envie de faire un truc que j'aime, qui est vraiment plus intéressant. C'était pourquoi je me suis orienté dans ce choix.
Oui, enfin, personnellement, je suis d'accord parce qu'en plus, ça permet de s'identifier. Enfin, moi, en tant qu'étudiante française, évidemment, je ne vis pas du tout la même réalité, mais je peux me comparer, je peux faire des parallèles et je m'identifie plus facilement en suivant comme ça un personnage comme Nestor, même dans ses échecs universitaires. On peut, je pense, un peu tous s'identifier, alors que si vous aviez fait un film plus global qui montre toute l'université avec tous les élèves qui essayent de lutter, etc., ça aurait été plus finalement proche du reportage que du documentaire de création. Et là, il y a vraiment de la création, on sent qu'il y a de l'écriture aussi, même visuellement, j'en ai parlé tout à l'heure. Et du coup, personnellement, je trouve que c'est un très bon choix. Et sinon, je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait de montrer le film à l'international avant de le montrer à l'échelle nationale. Je me demandais, quand vous êtes parti dans le tournage, quand vous avez commencé, quelles étaient vos aspirations en termes de diffusion de films, est-ce que vous imaginiez qu'il allait aller au-delà des frontières, qu'il allait être vu par un public très varié? Est-ce que c'était quelque chose que vous imaginiez? Et est-ce que vous aviez peut-être une aspiration que le film devienne un peu une sorte d'archive, un témoignage de quelque chose, de votre propre vie finalement? Il y a un peu deux questions dans ce que je viens de dire.
Oui, je voulais d'abord faire le film. Et je me disais, je voulais faire mon film. Peu importe le voyage, si ça arrive à être retenu dans un festival, ce sera bien. Mais si jamais on ne le retient pas dans un festival pour que ce soit vu à l'international, ce sera vu chez moi. Même si on sait que chez nous, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'existe pas de cinéma, il n'y a rien. C'était vraiment faire d'abord réaliser ce projet. C'était réaliser ce projet et on allait trouver d'autres possibilités avec mon producteur pour au moins le projeter. Et surtout, c'était intéressant. Comme le premier film avait fait son voyage dans d'autres festivals, je me disais on allait sûrement rencontrer deux, trois personnes qui vont avoir envie de voir le film et surtout de présenter mon pays, de parler de nous d'une autre manière à l'international. Parce que si aujourd'hui, bien avant, vous partez juste sur Google, vous tapez RCA, on va vous sortir pays en guerre, on va vous sortir mangeur d'hommes, la guerre, mais il n'y a rien de positif par exemple. On ne montre pas ce côté positif, on ne parle pas des talents des jeunes, on ne parle pas de ce que les gens vivent, de leurs cours, de leur quotidien, de l'éducation. Et moi, je me suis dit, il fallait que je fasse ce film qui touche aussi le côté négatif, mais qui parle un peu de nous, notre quotidien, du côté aussi, le bonheur aussi, notre succès, comment on se bat, montrer aussi notre talent à notre manière, le présenter. Pourquoi pas à travers ce film beaucoup plus indexé mon pays? Parce que on dit toujours, on parle de pays de Bokassa, mais Bokassa n'est pas là, c'est pas son pays en fait, c'est pas que son pays. Donc ça, c'est un faux débat, c'est un vieux discours qu'on doit déjà commencer à oublier. C'est pays des centrafricains, donc on doit bien le géolocaliser à travers peut-être ce film. Déjà, c'est une première. Il n'y a eu jamais un film centrafricain qui a été à la Berlinale. Et voilà, c'était une première fois que mon film puisse partir. Donc, ça représentait carrément mon pays. Et j'étais très content. J'étais très content. Et voilà. Ça me fait plaisir d'être là encore au réel, montrer le film. Quoi. Je suis très content.
Je veux vous féliciter pour ça parce que ce que vous avez dit, c'est vrai. Je le ressens beaucoup quand je vais en Afrique. Je ne vois pas la même chose que ce que les Français ou les Européens voient à la télé ou dans les médias. Je trouve que l'Afrique est vraiment mal représentée dans nos médias et que vous avez fait un superbe travail. Moi, j'ai adoré le film, hein. faut le dire, je l'ai vu deux fois et la deuxième fois, je l'ai autant aimé que la première fois. Je trouve que vous avez montré, c'était comme si je regardais ce que je vois moi quand je vais en Afrique. C'est-à-dire pas la même réalité que ce que les gens voient ou pensent ici. Et c'est un combat qui mérite d'être mené. Pour la Centrafrique et pour de nombreux autres pays africains, de montrer l'Afrique comme elle est, parce que je trouve que c'est ce que vous avez fait avec ses difficultés mais aussi sa beauté, plutôt que comme elle est fantasmée par nos médias. Donc bravo pour ça, parce que ça, j'ai vraiment adoré.
Je suis tout à fait d'accord et je suis totalement d'accord, j'allais dire à peu près la même chose, mais aussi je trouve qu'il y a quelque chose dans ce regard que vous portez sur votre propre pays, il y a quelque chose de politique, sans l'affirmer, sans le souligner, sans que ce soit affiché en grosses lettres, mais dans le fait de proposer un autre regard. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous évoquez, moi, ça me fait penser à l'idée que on regarde toujours les pays africains avec un regard colonial. On nous montre, c'est ce que vous disiez, le côté conflit militaire, conflit politique, corruption, etc., mais vu vraiment d'un regard un peu supérieur, un peu extérieur. Et là, vous nous proposez un regard qui vient contrer ce regard colonial et qui vient proposer une autre option, la vôtre, et sans doute une option plus intéressante, moins manichéenne et avec plus de contraste, bien sûr. Donc, bien sûr, je vous remercie pour ça et je trouve que c'est une très bonne démarche. Et c'est aussi une démarche à la fois artistique et politique, à mon sens. Je ne sais pas si des gens ont des questions ou si on a quelque chose à ajouter.
Moi, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Oh.
Moi aussi, merci encore.
Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous voir et de recevoir aussi les questions et de vous présenter mon pays à travers ce film.
Et le film, il va circuler ailleurs? On sait pas.
Oui, là, il y a un distributeur sur le film. Et après le réel, le film est déjà retenu pour d'autres festivals. Je sais plus, Hot Dog, Toronto, à Milan et en Angleterre. Bah, après, ça va faire un peu le tour. Et le film sortira en salle en 2023. Donc, ça va d'abord faire le tour des festivals. Et ça sera montré chez moi, au pays, en avril. Le 30 avril, le film sera projeté à Bangui pour les jeunes du public centrafricain.
Et bravo.
Merci.
Combien de temps a tourné ce film ?
Oui, 2 ans et demi pour le tournage et le reste pour le montage, le tout dans 3 ans. J'ai réalisé le projet dans 3 ans.
Ah, okay.
La plus difficulté, c'était d'abord obtenir l'argent pour parce que quand c'était vraiment la relation était cassée et c'était très long, il fallait aussi trouver de l'argent pour payer les acteurs, mes amis, et faire la post-production du film. Il fallait faire la post-production dans de bonnes conditions. Donc, il fallait trouver l'argent. C'est ça qui a pris aussi beaucoup de temps.
Oui, moi, je voulais rajouter quelque chose que j'ai pas pensé à... Enfin, il m'a fallu le voir 3 fois et t'entendre à chaque fois en parler pour arriver à penser à ça. Mais je me dis que c'est une sacrée leçon que tu nous donnes. Dans un pays où face à un sujet qui est tellement difficile, tellement dangereux à filmer, et ou même carrément enfin, impossible, je trouve que passer par la fiction et reconstituer le réel, on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est vraiment éthique, est-ce que c'est vraiment du documentaire, mais en fait, je trouve que c'est une leçon magnifique de courage et de... En fait, enfin, voilà, je pense que c'est une leçon que plein de cinéastes peuvent garder... Quand on est empêché, quand on ne peut pas ou quand c'est dangereux de filmer les choses comme elles arrivent, en fait, de prendre cette solution, je trouve que c'est très... Je trouve que c'est très beau et que c'est, une, ouais, que c'est une belle leçon.
Merci. Oui, c'était pour moi la seule solution à faire parce que je trouvais que c'était intéressant de capter ces choses-là et pour les avoir dans ce pays où on ne peut pas filmer, c'est très difficile. Dès que tu sors une caméra dans la route, il y a forcément un policier qui te saute dessus. Malgré que tu as l'autorisation de son chef, des fois il peut te dire « qu'est-ce qui prouve que c'est signé par moi, chef ? Peut-être que tu l'as falsifié. » Il peut même te compliquer la situation, tu peux même perdre ce que tu veux faire. Donc, soit tu as la possibilité de montrer l'autorisation et prévoir quelque chose dans ta poche. Dès qu'il veut te compliquer la vie, bah, tu donnes. Et moi, j'avais cette chance aussi avec un peu mon nom d'artiste qui m'a favorisé certaines choses, surtout dans la ville quand je partais tourner. Et dès qu'il y a un petit souci, au centre-ville, il y avait des godobés, c'est les enfants de la rue qui me connaissent très bien, qui essaient d'intervenir. Mais ça, c'est un autre artiste. Pourquoi tu veux, donc ils sont toujours prêts parce que c'est des jeunes qui cherchent toujours à se battre, ceux qui attaquent un peu ces policiers. Donc puisque si on n'arrive pas à trouver, à capter la réalité directement, je pense que chercher à reconstituer l'histoire et en gardant un peu cette partie de réalité, en laissant la liberté que les choses puissent sortir, je pense que c'est aussi intéressant. Ça donne un peu ça rajoute un peu de sucre quoi dans la de sel dans la sauce.
Et il y a aussi une chose pour laquelle je voulais te remercier, c'est que je trouve que des documentaires sur la jeunesse, il y en a, hein, qui sont valorisants et qui nous montrent que la jeunesse de n'importe quel pays, qu'en fait les jeunes sont pas ce qu'on dit en permanence qu'ils sont, mais je trouve ça très fort parce que dans ton film, à la fois c'est des jeunes qui aiment s'amuser, qui aiment les filles, qui aiment boire, et tu les montres dans toutes ces activités-là. Et à la fois, ils se posent des questions spirituelles, des questions existentielles, politiques. Ils sont très engagés et en même temps très légers et profitant pleinement de la vie. Et je trouve que cet équilibre, il est très beau parce que tu donnes aussi une image de la jeunesse de manière générale qui est vraiment valorisante. Et qui s'attache pas juste à montrer, tout ce qu'on entend en permanence en fait, je trouve sur les jeunes. Et ça c'est très agréable, je trouve.
C'est C'était aussi très. Je pense que j'ai. Au départ, c'était pas facile pour moi aussi déjà de prendre du recul. Parce qu'à un moment donné, quand je revois le film, je me souviens quand il y a eu la première projection, il y avait juste une collègue réalisatrice centrafricaine qui était aussi là. Et quand mes amis parlaient un peu mal de moi, ils m'ont touché à dire, tu vois, on parle mal de toi là, ça te ressemble. Donc du coup, il y a des moments quand je regarde, j'ai honte, j'ai dit, mais ça, c'est pas moi, c'est, voilà. Il fallait accepter, l'accepter aussi en tant que réalisateur, de prendre ce recul-là et raconter notre histoire, rencontrer notre vie à ma manière et à notre manière, quoi. C'était une très belle expérience. C'était difficile pour moi. C'était très long parce que c'est une première pour moi de faire un long métrage. C'était pas facile avec surtout les raconter un film avec ses amis. Vite, c'est très facile que ça puisse mal tourner, que tu puisses mal raconter l'histoire et dans la situation où les amis étaient presque déjà découragés, ils n'ont pas eu cette expérience, ils ne sont pas des acteurs professionnels et il faudrait surtout chercher à rentrer encore plus en intimité, beaucoup parler, rester en contact afin de les motiver à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes et à faire sortir vraiment le film, quoi. Parce que si j'étais pas vraiment en très très bonne relation, c'est pourquoi je remercie beaucoup mes acteurs. Si j'ai pas pris beaucoup de temps, je pense qu'on n'aurait pas dû finir le projet aussi. On n'allait pas dû finir le projet parce que c'était vraiment cassé. Hein. C'était cassé, on pouvait pas continuer, mais voilà. C'était une très belle expérience. J'ai appris aussi sur le terrain et je continue toujours à apprendre et je vais continuer à faire des films. D'accord. Demain, il va y avoir encore une autre projection et demain, je vais chanter. Donc, si ça vous intéresse, vous venez. Donc, après la projection, je chanterai.
Votre film, il va être diffusé à Bangui en avril, c'est bien ça ? Et je me demandais comment ça se faisait que les autorités... vous êtes autorisé à projeter ce film, en sachant quand même que vous êtes dans de l'activisme et que vous remettez en question l'autorité des vieux. Et ça entre quand même un peu dans de la politique. Enfin, après, je ne suis pas experte, mais de base, ce n'est pas des films très recommandés en Afrique. Donc, du coup, c'est juste ça que. Ou je ne sais pas, ils n'ont pas vu le film avant
Ils n'ont pas encore vu le film ? Mais quand on voit le film, c'est pas que la politique, c'est notre vie, c'est notre histoire qu'on raconte. Donc, je pense que je resterai toujours sur ce discours. Et normalement, même si on parle de ces vieux, c'est notre réalité. À Bangui, tu vois, écoutez, tous les jeunes en parlent. Tous les jeunes en parlent. Chez nous, on dit vieux tout le temps dans les débats. Et ce qui est intéressant, déjà, après déjà les articles sortis ici, il y a eu des débats, des tables rondes à Bangui, des manifestations des jeunes. Et je pense qu'ils vont accepter le film. Ils feront avec. Ils vont être choqués dans un premier temps, mais c'est notre quotidien, c'est notre réalité. Ils vont pas faire semblant de se cacher, quoi. C'est ce qui se passe dans la vie. Ils connaissent le président de la République, qui est professeur, il est passé par là. Il connaît cette réalité, il connaît cette histoire. Ce n'est pas nouveau pour lui. Peut-être, sauf s'il veut faire semblant, quoi. Mais je sais qu'il connaît la réalité. Peut-être qu'ils vont sûrement le prendre dans un premier temps. Mais après, on fera avec. Mais j'ai pas peur. Hein. J'avais peur quand je tournais dans la première année, le tout début. La première partie du film, j'avais très peur de raconter cette histoire. Mais puisqu'après, je me suis dit, non, on est en train juste de raconter notre quotidien, même si on touche la réalité, je ne vois pas pourquoi je dois avoir peur. Même si NC4, ils veulent me mettre en prison, ça serait bien parce que ça va aider d'autres jeunes à avancer. Ça va peut-être faire changer les choses, même si ce n'est pas le but. Le but du film, ce n'est pas de changer les choses au pays, mais c'est de raconter. Notre quotidien, montrer comment nous on étudie, comment on vit, c'est quoi l'histoire de ce groupe. Mais je pense qu'ils vont Déjà, le fait que le film est sorti, ils vont même pas réagir. Ils vont pas réagir, je pense pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faudrait que ce film soit vu chez nous. Il faudrait que eux-mêmes ils puissent le voir. Il faudrait que ces jeunes puissent se voir aussi. Je ne peux pas tourner le film au pays et ne pas le présenter aux jeunes du pays. C'est comme si je n'ai rien fait. Ça, c'est pas intéressant quoi. J'ai pas juste fait le film pour le projeter dans les festivals. C'est bien que c'est intéressant de le montrer dans le festival pour que ça soit vu, ça puisse se présenter mon pays. Mais c'est très, pour moi, je trouve que c'est bien meilleur que ceux qui sont dans le film puissent le voir parce qu'ils l'ont même pas encore vu. Ils vont le voir quand je vais rentrer et que les étudiants à l'université puissent le voir. Ils vont être très contents. Déjà quand ils voient les photos, je me suis, on a un groupe WhatsApp entre étudiants. Ils m'ont répondu, ah mais je vois ma tête. J'espère que tu m'as filmé. Il y a d'autres qui me demandent, est-ce que tu as gardé mon image? Parce que tu m'avais filmé, je dormais. J'ai dit, mais non, je n'ai pas gardé ton image. Mais Rafik, tu vas me le payer cher. Ah mais il faut qu'ils puissent voir le film.
Bah, je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. Et du coup, c'est demain à 21h au Forum des Images si vous voulez l'entendre chanter.
Merci.